les plateformes sont pas toutes stables. Zoom a de la misère. Ça
ouais,
dépend
c'est
avec
ça,
quoi.
Zoom.
Puis aussi, entre équipements, il y a des... Tu sais, mettons, moi, j'ai une carte de son Focusrite, puis elle rush avec le logiciel Zoom.
Ah ouais.
Fait que peu importe le micro que je mets, il clip, ça fonctionne pas. Fait que si, mettons, j'avais, quand j'ai des shows virtuels, si c'est sur Zoom, ben là, j'en ai plus vraiment, mais quand j'en avais, si c'était sur Zoom, je pouvais pas prendre mon bon micro. Fallait que je prenne mon casque d'écoute. Si c'est sur Teams ou sur Google Meet, là, je peux prendre mon bon micro puis le faire. T'sais. Mais tu sais, c'est ça. Dans la pandémie, ça a accéléré bien les affaires, mais ça n'a pas tout réglé non plus.
T'sais. Clairement. Clairement. Ouais. Je me suis déjà fait intimider par un enfant de troisième année dans un atelier Zoom. Parce que l'enseignante ne savait pas comment mettre juste une personne comme présentateur. Fait que tout le monde était présentateur. Puis elle n'arrêtait pas de s'amuser à sortir des kids. Puis à un moment donné, c'est moi qui sortais. Puis il y en a un, à chaque fois que le kid y revenait dans la présentation, là, il broyait, puis ça allait, puis il faisait une crise. Puis j'étais comme, là, c'est peut-être juste un problème technique là, qui se passe, puis tout ça. Le lendemain, j'ai reçu une vidéo d'excuse d'une petite fille toute cute. Excusez de m'avoir intimidé, genre.
Parce que c'est elle que, dans le fond, tout le monde avait les accès, fait qu'elle, elle faisait juste...
Oh, elle s'amusait, elle trouvait ça drôle au bout, là. Elle a dit, on va sortir, elle. Ah, t'as marre de me choquer. Puis là, elle n'arrêtait pas, puis à un moment donné, elle a décidé que moi aussi, c'était le temps qu'elle me sorte.
Ah, c'est drôle, ça. Là, t'as reçu une petite vidéo toute cute d'excuses d'un enfant qui est comme, monsieur, je suis désolé. Tu sais, le genre d'excuses que... qu'on faisait quand on se faisait pogner à voler des affaires puis que nos parents disaient là faut que tu les redonnes puis tu dis ça m'excuse là,
comme, oui, ah, exactement.
Oui, m'excuse. C'est sincère, tu regardes à terre puis tu marmonnes là.
Exact.
On va commencer ça cet épisode là. Éric Fellado.
Oui, c'est moi.
Oui, c'est moi. Présent.
Présent.
On n'est pas dans un zoom avec des enfants. On est obligé de faire les présents. Faites un... On est juste deux. Je suis content qu'on fasse ça. Éric, ben, ça fait un bout qu'on se connaît.
Ouais.
Je sais pas si ça remonte à quand ou sais-tu à travers le podcast, sais-tu à travers les shows d'humour? Parce que je vais installer le fait que t'es humoriste, t'es aussi BDiste,
ouais,
t'es
créateur,
tu fais un paquet d'affaires. Puis on se connaît, mais on dirait que dans ma tête, je sais plus pourquoi on se connaît, mais je sais qu'on se connaît.
officiellement, c'est mars 17, mais non, c'est pas vrai. C'est
la date, l'heure exacte. Un autre asperger. Faut que je fasse des recherches avant de booker.
Mais notre amitié Facebook remonte à autant de en route. Parce que j'ai toujours été fanatique d'humour, d'humoriste, tout ça. Puis quand je voyais les humoristes, j'étais comme, ah non, lui, il va être big, elle va être big, tout ça. Puis là, j'allais les ajouter comme amis Facebook. Puis je me disais, à un moment donné, je vais les avoir comme amis, puis ils vont être rendus connus.
C'est comme, comme la bourse, mais genre des humoristes, là. Tu voulais acheter quand c'était le temps.
C'est ça. Le stock était pas trop cher dans ce temps-là. Puis c'est juste, j'ai toujours voulu être dans le milieu de l'humour là, depuis le secondaire. Tantôt, j'ai mentionné que j'étais quelqu'un de super timide. Là, puis plutôt que de faire de l'humour parlé, tout ça, c'était plus illustré que je le faisais. Mais ça m'a toujours titillé, ce milieu-là. J'en ai toujours consommé à tonnes. Puis c'est ça, je vais ajouter plein de monde comme ami Facebook. Puis je pense que c'est genre 2018, parce que je faisais le cours de l'École nationale de l'humour, là, d'écriture, avec M. Boily, Luc Boily.
Ah, le cours du soir!
C'est ça, puis c'est un texte que j'avais écrit là, que j'ai fait valider par toi, par après.
Okay.
Parce que des fois, je t'écrivais de temps en temps, puis je te disais que je voulais faire de l'humour, tout ça, puis là, je t'avais comme envoyé ça, puis je m'étais dit, PB, c'est un bon gars, il me semble qu'il va le prendre la peine de lire mon texte. Je ne vais pas juste dire j'ai pas le temps, puis sûrement que tu n'avais pas le temps, mais tu le lis pareil, puis tu me dis ah, c'est bon, ça, tu peux aller le jouer. Tu ne savais pas à quel point moi je l'aurais performé, là, mais tu trouvais que le texte était assez bon pour que je puisse aller l'essayer. Fait que c'est à partir de là qu'on a commencé à échanger un peu plus. Là.
C'est drôle, ça. Ben, puis je me sens quasiment trop de cul d'avoir oublié ça, mais j'oublie ces affaires-là, je sais pas. Moi,
non, mais pour moi, c'est le début où je commence à faire, mettons, de l'humour un peu plus. Là. Avant ça, c'était juste un rêve en l'air. Là.
J'ai pas bullshité, par exemple. Quand je dis oh, oui, c'est cool, tu devrais, il y a ça qui est bon, je suis tout le temps honnête parce que je veux pas. D'un, je veux pas dire n'importe quoi, je veux pas mentir, puis je veux aussi tu sais, je comprends, on est où dans le processus. Fait que, tu sais, il y a des moments où t'es, comme tu commences, où je vais pointer ce qui est bon, puis dire, fonce, là, faut juste que tu l'essayes, puis que tu le vives, puis ça va s'améliorer, tu sais. Je regarderai pas ça, fait qu'il y a un œil de genre, OK, t'es un humoriste qui a 10 ans de carrière, puis tu me demandes si ton texte est bon, j'aurais pas les mêmes commentaires, là, tu sais.
T'avais été super fin, puis j'étais allé le faire une couple de fois. Je l'ai fait 3 fois, ce texte-là. Puis la troisième fois, j'ai pris sa retraite. Pas que c'était pas un mauvais texte, c'est que j'ai fait la mauvaise idée que pour ma troisième fois, j'étais pour aller au bordel à l'open mic, puis je me suis planté solide, là.
Ah ouais?
C'est plus moi-même là, qui s'est. Je me suis saboté. Trop de trucs qui me titillaient en tête. Là. J'avais la lumière, le micro qui ferme, le temps qu'il faut que tu respectes. Et j'avais tellement peur de pas respecter tout ça que mon texte, je l'ai vomi en 3 minutes. Je pense même pas que j'ai reçu un rire. Puis après ça, il y a Pascal Cameron qui était l'animateur qui s'en vient et qui dit c'est pas facile pour tout le monde. Puis après ça, il dit ouais, c'est facile pour tout le monde. Puis là, j'étais comme. Je me sentais tout petit.
Ouais, surtout mais Cameron. Mais Cameron, non, il est fin, Cameron.
Il est pas méchant, je sais.
Non, exact.
J'ai écrit après, j'ai dit, tu sais, c'est vrai que j'étais mauvais, je le sais, j'en suis conscient, mais. Puis il me dit, c'est parce que ton texte, il était bon, mais tu l'as juste récité, puis tu l'as pas joué, là. Fait que c'est.
Mais ça, c'est de l'expérience de scène. Ça, c'est tu t'en sauves pas. C'est comme, il faut que tu le vives, il faut que tu le fasses une fois, tu fasses, OK, pourquoi je vais plus jamais vivre ça? Là, t'apprends, puis à un moment donné, t'apprends à gérer ton micro, t'apprends à gérer l'éclairage, le temps, à pas capoter. T'apprends que si tu répètes, puis là, ça fait 3 minutes, faut pas que tu dises, ah, ben, j'ai 3 minutes. Faut que tu dises, si je prends le temps de le vivre sur scène avec le monde, j'ai sûrement 4 minutes.
Ouais,
fait que je vais essayer de me calculer un 2 à place, puis je vais faire 2 minutes, puis je vais le faire au bon rythme avec les rires, avec le monde, puis là, je vais sûrement me rendre à 3. Fait que c'est toutes des affaires que tu apprends en le faisant, mais là, vu que tu l'as vécu au bordel, ça fait plus mal, on dirait.
Ouais, puis tu sais, on s'entend, l'open mic du bordel, c'est pas un open mic régulier. Là. Il y avait Rich qui était là, il y avait Mehdi Boussaidan, Dave Godet, il y en avait plein, là. Je pense que la moitié, c'était des gars que j'avais déjà vu à la télé, puis ça m'avait doublement intimidé. Mais
il faut pas, tu sais. Moi, j'étais allé la semaine passée, je retourne à soir, dans le fond. Puis l'open mic, c'est là que je vais casser des V1, je sais pas, tu sais. Comme là, j'ai un onglet d'ouvert dans mon. Tu sais, pendant qu'on se parle, puis c'est mes idées pour asseoir pour l'open mic. J'ai 5 minutes à faire, puis c'est comme juste des phrases floues, puis des angles pas clairs, puis des jokes trop trash que je fais ça se rendra jamais dans le show, là. Puis ça prend une place pour faire ça. Fait que nous autres, on y va. Fait que tu sais, quand tu vois ces gens-là à l'open mic, de un, tout le monde est super smart, il n'y a personne là-dedans qui fait d'attitude, tout le monde est super supporteur, tout le monde est comme go, ça va bien aller, pis c'est le fun. Il n'y a personne qui nuit à personne non plus. Si le gars avant il rend mauvais, ça ne te nuit pas à toi, c'est 5 minutes, c'est pas assez long pour scraper un crowd. Pis s'il est vraiment bon, ça ne scrape pas de ton passage à toi non plus parce que le monde est juste dedans, puis c'est cool. Mm-hmm. Fait que. Faut pas voir voilà, plus que ce que c'est réellement. Là, mais...
c'est bien
j'avais oublié que tu m'avais écrit après ça.
J'ai survécu. Puis là, j'y retourne au bordel, mais vu que c'est tellement long, là, quand tu n'es pas connu, tout ça, je me tente au gong show. Là.
Comment tu
mais là, j'essaie de viser le 3 minutes, justement. Ah, ça me stresse au bout. Là. Je sais pas pourquoi que je fais ça, mais je me dis, regarde. On va essayer le concept, on va essayer d'aller jouer là, puis on verra ce que ça donne.
C'est se mettre en danger, man. C'est...
Ah non, ça, c'est constamment, là.
On sait jamais pourquoi qu'on fait ça. Ça s'en va pas, ça. Je parle à tout le monde, tu sais. Connu, pas connu. Tout le monde est comme, pourquoi qu'on s'inflige ça?
T'es comme, j'étais encore dans les débuts, hein, puis c'est tout le temps ça. À chaque fois, je me dis, j'aime-tu vraiment ça? Pourquoi que j'y retourne? Puis là, je me pogne des dates, puis là, des fois, je fais juste écrire à quelqu'un en me disant, ils sont super occupés, ils n'auront pas de temps. Puis il y en a des fois qui me réécrivent, ah, bon, on a une date cette semaine, la semaine prochaine, l'autre d'après. OK, j'avais pas prévu ça. Mais là, je peux pas dire non. Parce que
ça va être dans des mois, là.
C'est comme là, je suis comme, OK, bon, ben, on va y aller, puis on verra bien ce qui va se passer.
Mais c'est la meilleure attitude, tu sais. J'ai vu tellement de monde me finir par rien faire juste parce qu'ils attendent le moment parfait, puis l'espèce de...
J'ai attendu au-dessus de 40 ans. Je pense que je suis monté sur scène la première fois à 43 ans. Là,
ouais, c'est ça.
Du stand-up.
C'est ça.
C'est...
On a joué ensemble au Mex à Cantley aussi.
Ouais, c'est vrai, ça c'était cool ça.
Ouais, c'est vraiment, vraiment cool place. Ouais. La ville officielle du gars de Gilles Douet.
C'est là pour vrai?
Ouais, tu sais, le Gilles Douet.
Oh, ouais.
Au Ramblais, il est gars, Gilles Douet. Lui, il vient vraiment de là. Tout le monde le connaît, fait que ça me fait tellement rire. Quand j'étais sur scène, j'étais juste, j'ai le goût de vous parler de lui pendant. Mais tu sais, je me disais que tout le monde qui passe là fait juste parler de lui. Fait que c'est comme, OK, je vais parler de mes affaires à moi à place. Là. Ils doivent être écœurés de se faire associer à ça, à Cantley.
Ouais. Ben, j'ai acheté un gros hoodie à ma blonde qui s'écrit Gilles Douet, puis c'est E.T. avec son doigt qui sort de même. Là.
Ah, ça, c'est le fun, vas-y. C'est juste une variation intéressante sur le thème, tu sais, c'est pas juste... Là, je check si j'ai ton livre pas loin. Je sais pas si je l'ai. Je vais juste checker vite, vite. Ben oui! Check ça!
Ah oui, celle-là.
Ton recueil!
Mon recueil de trucs que j'ai fait dans le magazine Safari.
Ben oui, mais je trouvais ça super cool, tu sais, tu m'as dit que... On se parlait, justement, je sais plus de quoi qu'on parlait sur Internet, puis... Puis là, tu m'as dit, hey, je sors ça, puis tout. Puis j'étais comme, c'est donc bien nice, fait que j'étais allé l'acheter. T'sais. J'étais tout content de. Je trouvais ça vraiment cool que tu fasses ça. Puis que. Parce que là, dans le fond, mettons les gens en contexte, parce que je suis excellent pour pas faire ça. Puis on va le faire. Là, on a parlé un peu de la scène, mais t'es aussi, dans le fond, on a parlé un peu avant l'épisode, mais t'sais, créateur, mais illustrateur, BDiste.
C'est ça. Qu'est-ce que je t'ai mentionné pour le répéter parce que tu as dit que c'était du bon contenu? Là.
Ben oui, c'est comme non, mais ça te présentait super bien.
Ouais, mais je t'avais mentionné mon titre. Je me vois plus comme un créateur parce que dans le fond, c'est la façon que j'ai exprimé mon imaginaire au tout début. Ça a été à travers le dessin parce que trop timide pour monter sur une scène, comme je te disais tout à l'heure. J'avais fait des flashs humoristiques en salle de classe, mais bien trop gêné pour les dire. Je le chuchotais au gars qui aimait bien ça, parler fort dans la classe, puis lui, il faisait la joke, puis là, il riait, puis là, j'étais tout le temps fier. OK, t'es bonne ma joke, mais je le disais jamais, dans le fond. Là.
Fait que t'étais writer.
C'est ça, j'étais writer déjà là, puis que j'ai commencé à... C'est passé vite de juste illustration à faire de la bande dessinée parce que c'était plus écrire que j'aimais, mais j'aimais dessiner. Fait que je suis tout de suite tombé dans la bande dessinée. Là, j'ai commencé à faire mes premières bandes dessinées, j'avais 8-9 ans.
Okay.
Puis c'était comme un passe-temps. Là. Je faisais ça tout le temps. Là, de la BD, je me faisais des livres. C'est pas dans mes plus vieux que j'ai. J'en ai un album ici que j'ai fait, je pense que c'est au début de secondaire, là, pour te dire pendant combien longtemps que j'étais geek avec mes affaires. Là. Ça, c'est une BD.
Okay.
Que j'ai fait mes albums puis tout là reliure avec ma biographie derrière.
Wow! C'est donc ben hot. Ça c'est à la main, tout à la main?
Oh, et reliure à la main avec des vieux cartables, je déchirais mes cartables, je gardais juste les cartons puis je me faisais une reliure avec le livre au complet là.
Il y a un exemplaire.
Là. Oh, un exemplaire, j'en ai fait plusieurs peut-être 5-6 albums comme ça pendant que j'étais au primaire secondaire là.
C'est donc ben nice.
Je rêvais de faire de la bande dessinée plus tard puis je me suis visualisé beaucoup.
Ouais.
J'ai fait beaucoup de BD. Beaucoup pour moi au début. Je te dis, là, le syndrome de l'imposteur me suit encore aujourd'hui, mais même là, quand j'ai commencé à en faire, j'osais pas y montrer à personne, mais j'avais tellement peur que quelqu'un me dise « c'est bien mauvais ce que tu fais, c'est bébé, tout ça. » Fait que je les montrais pas à beaucoup de monde. Je te dirais que c'est au secondaire, je me suis joint à l'équipe du journal étudiant. Ah, je me suis joint. Je me suis fait recruter parce que pendant les cours de sciences, vu que je trouvais ça plate, je faisais des petits barbeaux dans mes marges de pages. Puis il y a une fille que je trouvais cute qui m'avait dit « Hey, c'est nice, qu'est-ce que tu fais? Ça tenterait pas de faire partie du journal étudiant? » Je sais pas c'est quoi le journal étudiant, mais t'es là, fait que je vais y aller.
Ouais, ouais, le secondaire, c'est pas mal drivé par ça. Ouais.
Puis là, j'ai essayé de faire plus des cartoons qui étaient plus humour. Je lisais beaucoup justement Safari, fait que je me suis beaucoup inspiré de Safari dans les trucs que je faisais au secondaire. Je faisais de la caricature, je faisais des chroniques humoristiques basées sur les élèves de l'école. Je faisais de la BD originale, toutes sortes de trucs de ce genre-là. Puis ça, j'ai vraiment pris le goût de faire l'illustration humoristique. C'est vraiment dans l'humour que je me suis beaucoup penché là, par rapport au dessin.
Ça a influencé ton style de dessin? Est-ce que ouais. Dans le fond, parce que tu sais, je sais que mettons, en écriture, tu sais, une écriture humoristique et une écriture dramatique, c'est pas la même chose, mais au niveau des traits, puis au niveau de la façon de dessiner les choses, puis d'avoir ton propre style, est-ce que ça paraît quelqu'un qui a un style qu'on dirait comique en dessin?
Je pense que oui, parce que justement, ce que je lisais le plus, c'était de la BD franco-belge, les ouais. Tout ce qui sort de la France.
Puis la mienne, puis le...
les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe, l'Astérix, tous ces trucs-là. Tintin, moi, j'ai jamais été un gros fan de Tintin, je trouvais qu'il y avait trop de textes.
Ouais, moi non plus.
C'était écrit petit, c'était la typo, j'aimais moins, en tout cas.
C'était trop raciste.
C'est ça, Tintin, ouais. Ouais, exact. Mais ça, puis la BD, il n'y avait pas beaucoup de BD québécoises, mais il y avait Safarir, Mad, Crack, qui étaient des ouais. magazines crocs. Je lisais beaucoup ça plus jeune. Fait que je pense que mon dessin s'est beaucoup inspiré de ces styles-là. Tu sais, j'ai fait deux bandes dessinées avec Billy Tellier, comme tu sais.
Ouais, puis mais ça, je l'ai t'en parlé, ouais.
Mais c'est une des raisons qu'il m'a choisi. Il trouvait que mon style faisait très Safarir. Puis c'est comme okay. un truc qu'il aimait beaucoup quand il était plus jeune. Fait que ça m'a permis d'avoir le contrat avec lui. Mais c'est justement, je pense que sans vraiment m'en rendre compte, je fais un style qui est très cartoon. Que je fasse des BD qui sont, mettons, plus pour adultes, un sujet plus sérieux ou plus jeune, ça va toujours être dans ces styles-là, je pense. Mm-hmm. Ce que je fais. J'ai pas juste fait ce genre de dessin-là. J'ai fait du dessin plus, mettons, réaliste, plus anatomiquement correct, mais c'est pas ce qui me plaît.
OK. Puis est-ce qu'on peut dire, parce que tu sais, je connais pas les termes, là, comment qu'on parle de ça, mais est-ce qu'on peut dire que c'est plus près de la caricature, mettons, la façon dont tu dessines?
Ouais, ben caricature, je pense que c'est exagérer des traits, là, c'est ça que ça veut dire.
Ouais, c'est ça.
Et on l'associe plus à dessiner quelqu'un avec un gros nez, puis ça te ressemble, mais avec des...
Et des grosses oreilles, là, ouais.
Des grosses oreilles, une grosse tête, tout ça. Fait que ouais, c'est plus près de la caricature, parce que je fais des bras spaghettis, je fais des gros nez, je fais des personnages qui ont pas la même ossature d'une case à l'autre. Okay. Fait que c'est dans l'exagération, puis c'est ça, je trouve ça le fun, parce que ça reste justement dans l'humoristique, là. Ça reste ouais. dans le drôle, puis moi, de faire un personnage que quand il ouvre sa bouche, ça a plus de sens là, par rapport à la logique, ça j'aime bien ça.
Nice. Puis Safarir, moi, je pense honnêtement, tu sais, moi, j'ai un peu plus décroché en vieillissant, là, mais quand j'étais plus jeune, Rire et délire, c'était-tu Rire et délire ou délire?
Délire,
hein? Ma mère, elle m'avait donné, là, puis j'avais une pile de délire, là. Puis un des premiers gags que j'ai vu, que j'ai comme fait « wow » quand j'avais peut-être 8 ans ou 7 ans, c'était le gag de... Ça s'appelait un péniscope. C'était juste un gros monsieur qui voyait pas son pénis. Puis genre, il y avait une espèce de périscope avec des miroirs, puis il pouvait voir son pénis. Ça, c'était ça. C'était une joke de pénis, mais à cet âge-là, là, je trouvais ça hilarant. Puis ça m'a... C'est ça. Finalement, tu sais, j'ai découvert Safarir et compagnie, là, mais... Ah! T'es gelé!
Mais là, on est revenu.
Ouais, en gros, ce que je... Oh, on est revenu, oui. Ce que j'expliquais, en fait, c'est juste que j'avais ça quand j'étais petit, tu sais, les revues Délire, ma mère me donnait ça. Puis, tu sais, il y avait la joke du péniscope dedans qui était juste. C'était tout le temps des jokes de graines, là. C'était souvent ça, là. Tu sais, c'était un gros monsieur qui voyait pas son pénis. Puis là, il y avait comme un espèce de périscope qui faisait qu'il okay. pouvait voir son pénis avec un tube, là. C'était comme un miroir, puis un autre tuyau qui descend. Puis ça s'appelait le péniscope. C'était ça, le gag, tu sais.
Je me souviens pas de ça. C'était dans Délire.
Un gag. Oui, c'est dans Délire. C'est un gag sur, tu sais, les années 90. Là. Mais moi, je trouvais ça donc drôle. Après ça, j'ai switché à Safari puis je trippais là-dessus. Puis à un moment donné, je suis allé à SOS Labyrinthe au Vieux-Port. Tu sais, je devais avoir 12 ans. Là. Puis SOS Labyrinthe, c'était au Vieux-Port de Montréal. Puis dans le fond, c'était carrément juste un gros labyrinthe. Puis tu sais, t'es un enfant puis t'essaies de sortir du labyrinthe. Là. Fait que tu rentres à un bar, tu sors de l'autre bar. Mais dans le lobby, je ne sais pas pourquoi il y avait ça, il y avait des racks remplis de Safarir gratuits.
OK.
Fait que c'était juste, il y en avait, là, t'en veux, t'en prends, là. Fait que nous autres, on capotait. Fait que je suis reparti de là avec genre 30 éditions différentes. Puis je les avais toutes, là, tu sais. Puis en vieillissant, ben c'est ça, j'ai comme un peu décroché de ça. Mais sauf que quand j'ai vu que ça existait encore, j'étais comme, OK, je ne savais même pas que ça existait encore, premièrement. Je ne sais pas si toi, tu as suivi Safarir. Tout
ben
ce
j'ai,
temps-là.
Mettons, de 13 à 16, 17 ans, parce que je dis, j'en faisais. Là.
Ouais.
À un moment donné, j'ai décroché aussi des Safarir. Après ça, quand je suis sorti de mes études, je voulais comme en faire partie. Donc, j'ai comme raccroché un peu. J'ai racheté ce que j'avais pas pour un peu voir ce qui se faisait là-dedans. Puis après ça, ben, c'est sûr, tous ceux que j'ai, auxquels j'ai participé, je les ai aussi. Mm-hmm. Une fois que j'étais plus dedans, ben, j'ai redécroché une fois de plus. Là.
Parce que je connais plus ou moins ce monde-là. Fait, je me demandais comment ça fonctionnait. Puis c'était-tu, c'est-tu genre une communauté qui tout le monde se connaît ou c'est très flou, tu soumets des affaires, t'espères que ce soit dedans?
Pour le magazine, hey, regarde là, je sais que j'ai à quelques reprises, pendant que j'étais au début vingtaine, j'avais essayé de soumettre des trucs, puis jamais ils me répondaient. Je pense que c'était comme assez plus fermé. Et c'était tout du monde de Québec qui était dans le magazine. Okay. Puis c'est je suis allé dans un salon du livre, j'ai vu lui qui était rédacteur en chef. Puis j'ai parlé un peu de mes affaires, j'ai montré mon portfolio, puis il disait ah oui, c'est cool, on aime ça, envoie-nous de quoi. Puis je dessinais surtout sur papier encore dans ce temps-là, j'ai envoyé 20 gags, des gags vignettes. J'aimais bien ça faire des blagues en une case. Là. Puis t'as tout fait sur papier, j'avais fait un bel coup, pas en couleur, mais c'était en teinte de gris. Parce okay. qu'il y avait beaucoup de pages en teinte de gris. Puis là, j'ai envoyé ça, ces 20 trucs-là. Puis il me dit, ah, oh, cool, c'est cool, on les prend les 20. J'étais super content. Puis il me dit, sauf qu'on fait plus de noir et blanc, on fait juste de la couleur à cette heure. Je suis comme, ah, c'est cool, mais il faut tout que je les refasse.
Ah, fallait que tu les refasses.
Parce que j'ai fait la couleur directement sur l'original. Fait que pas la couleur, mais le gris sur l'original. Fait que c'était tout dessiné en gris pâle, gris foncé, tout ça par-dessus ça. Fait qu'il a fallu que je les fasse. Puis à partir de là, j'envoyais des idées à chaque numéro, à chaque mois. C'est tout le temps comme 3 numéros d'avance qui sont qui font leur contenu. Là.
OK.
Et c'est plus difficile d'être actuel dans ce temps-là quand tu es comme 3 numéros d'avance. Fait que j'envoyais
quand du t'envoies une idée, t'envoies-tu carrément quelque chose de déjà dessiné ou t'envoies genre un synopsis de « Hey, j'aimerais ça dessiner ça puis ce serait ça le gag. »
Je pense des fois j'envoyais des idées ou des croquis, puis après ça, je le faisais au propre, mais je pense que c'est déjà arrivé que j'envoyais des propres déjà finis aussi. À l'époque que je suis arrivé à Safari, il était pas fort, je te dirais. Fait qu'ils ont pas refusé grand-chose que j'ai fait. Okay. Des fois, j'envoyais des gags qui étaient quasiment que je trouvais à peine drôles, puis ils les prenaient. La seule fois que je me suis fait refuser du contenu, c'était j'avais fait des vignettes sur des bonhommes pendus. C'était tous des gags de monde qui se pendent.
Ouais, et pourtant, ça fait
rire. C'était correct. C'était pas des jokes super méchantes, là. T'sais, j'avais, si je me souviens bien, il y en avait un, c'était un astronaute qui essaie de se pendre, mais à cause de la pesanteur, ça marche pas, puis les autres, ils rient de lui. Il y avait un, c'était une piñata chez des mafiosos, c'était un gars pendu, puis l'autre, il cogne, puis il y a des bonbons qui tombent. Toutes des niaiseries de même. Une joke de blonde qui est pendue à ses pieds, c'était le classique. Des jokes, là. J'ai fait des affaires de même.
C'était ça aussi, là. Les gros gars classiques.
Puis la grosse raison qu'ils ont refusé, c'est qu'il y a un mois, des fois, il y avait des gadgets, je ne sais pas pourquoi, là, ils recevaient des trucs, puis c'était pour essayer de mousser les ventes. Puis il y avait des écouteurs. Il y a un mois, il y avait des écouteurs. Puis ils vendaient juste. C'est même pas des iPods, là, c'est juste des écouteurs. Puis dans le magazine, ils donnaient des utilisations autres que s'en servir comme écouteur, puis il y avait une des utilisations, c'était genre se pendre avec.
Oh mon Dieu!
Puis ça avait pas passé, ça. Il y avait eu des plaintes, puis tout, puis je pense qu'il y avait peur que ça allait chercher des plaintes, puis que ça avait été coupé au montage.
Mais ils sont quand même allés dans le joke, tu sais, dans le sens où c'est déjà en meeting, là, que tu peux pas faire une joke de se pendre avec des écouteurs, là. Oh, mais oui. ils l'ont mis pareil. Fait que, tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui est cool quand c'est pas... Tu sais, si c'est pas méga gros populaire, tu peux te permettre plus d'affaires parce que t'es comme, tu sais, qui c'est qui nous surveille, mettons. Il y a quelque chose là-dedans de le fun, là.
Exactement. Puis j'ai fait des trucs pour délire aussi là, pendant 5 ans à peu près, mais ça, c'était juste du texte. C'était pas vraiment de l'illustration. Là. Mais avec des listes, c'était souvent des top 10. Écris-moi un top 10 sur la Saint-Valentin s'en vient, fait que quel cadeau pas cool à donner à Saint-Valentin. Puis c'est souvent des choses qui revenaient... Dans le même style, puis c'est la même affaire, il y a tout le temps un quota de joke de pète, joke de graines là, là-dedans. Là.
Ouais. Ah, ils connaissent leur lectorat, tu sais, puis.
Oh, ouais, c'est ça.
Mais sauf que c'est ça, des livres, ça fait rire. Là. C'était deux magazines québécois.
Oui.
Fait que ça, c'est ça, Délire a arrêté bien avant ça fait rire. Ça fait rire est encore. Là,
non, ils ont arrêté après.
Après?
Ouais. Là, ça fait est comme revenu, là. Ouais, comme une version, ça, là. Mais oui, ils ont arrêté, ouais, ils ont arrêté avant Délire. Puis Délire, ça fait peut-être, je pense, c'est en, je veux dire, 2018-2019 qu'ils ont arrêté.
Wow.
Officiellement.
J'étais sûr que c'était mort depuis 2000.
C'était 6 numéros par mois, par année, pas par mois, par année.
OK.
Puis ça ferait aussi, à un moment donné, ça, il y en avait de moins en moins. Ils ont droppé au numéro 299. Le Délire a continué un peu par après, parce que j'ai continué avec Délire, puis okay. Après ça, les autres aussi ont arrêté. Puis là, c'est ça, ça ferait comme revenu, là, mais ouais, Délire
plus
a continué un peu.
C'est une édition web, c'est ça qui est...
Oui, c'est ça, c'est pas c'est bien imprimé.
C'est dedans, là, c'est ça. C'est rendu Jean-Marie Corbeil, je pense. Oui,
beaucoup moins de... Il n'y a plus vraiment d'illustration. Il y en a encore un peu, là, mais c'est plus c'est plus axé sur des textes humoristiques que sur l'illustration humoristique, là.
Ce qui est un peu étrange comme décision éditoriale, dans le sens où ça fait rire, tu sais. Si tu veux faire des trucs avec des textes humoristiques, c'est cool, mais comme start un autre brand, là. Parce que ça fait rire, dans ma tête, c'est des jokes visuels puis des gags, là, tu sais. C'est ça que c'est.
Mais je pense que ça devient peut-être plus cher aussi par rapport à...
Imprimer.
Imprimer, mais je parle pas juste le format imprimé, mais le faire de l'illustration versus le texte, écrire une joke puis, ou l'illustrer, ça prend un peu plus de temps. Donc, d'offrir le cachet, des fois, tu te sens un peu plus mal d'offrir un certain cachet à un illustrateur. Là, qui était, c'était rendu un peu ridicule à la fin, là, les cachets que j'avais. Autant à Safarir qu'à Délire, mais je comprenais le
la structure,
ça,
là.
C'est ça, ça allait avec la popularité de la chose aussi. Le moins que t'en fais, moins que t'en vends, moins que tu peux payer le monde qui participe, là. Ça devient un cercle vicieux en bout de ligne. Mais...
Puis comment, puis par curiosité, là, puis t'es pas obligé de répondre à ça, mais combien tu pouvais être payé, mettons, pour un truc? Y a-t-il des gens qui pouvaient vivre de ça, Safarir, puis d'envoyer des...
Moi, juste dans Safarir, non. Pas juste dans un magazine. Okay. Moi, je diversifie beaucoup mon travail. Je vais faire de l'alimentaire, comme en humour, hein. Des fois, t'as des affaires que tu fais par amour, d'autres que tu fais par... À cause de la paye.
Par amour de l'argent.
C'est ça, par amour de l'argent. Il y a des trucs que je faisais qui me faisaient chier au bout, mais qui étaient super payants que je faisais. Puis d'autres affaires que ça payait presque rien, mais je le faisais parce que je trippais. Tu sais, Safarir, ça a beaucoup été ça. Magazine que j'étais tellement fan quand j'étais jeune que je pouvais quasiment le faire pour rien. À un moment donné, on m'avait approché pour faire l'espèce de spread de deux pages, les choses qu'on entend dire, où il y a comme plein de bonhommes, plein de bulles, puis c'est comme la page du centre, là. Puis c'était André-Philippe Côté, mais en tout cas...
Gagnon?
Non, c'est pas lui. Mais je pense que c'est André-Philippe Côté, le caricaturiste de Québec. Non, il dessine pas André-Philippe Gagnon.
Non, mais je pensais que c'était comme lui le personnage que...
Qui faisait ça pendant longtemps, là, puis c'était comme la page mythique. Mais je l'ai fait, ça, une fois, je pense que j'ai été payé 100$ pour faire un double page qui avait comme 60 personnages, puis je sais pas trop, là. C'était beaucoup trop de travail. Une semaine de travail pour 100$, c'est ridicule, là, mais je l'avais fait parce que c'était de me dire, je l'ai fait, j'ai fait cette illustration-là.
C'est un statement.
Oui, c'est ça. C'était plus pour le plaisir de l'avoir fait.
Puis tes études, là, t'as étudié en quoi? T'as-tu étudié là-dedans ou c'est juste un accident de parcours, ça? Puis...
Non, j'ai étudié. Les premières études que j'ai faites, je suis allé en graphisme, conception graphique. Puis ça, c'était pas nécessairement ce que je voulais faire. C'était à l'époque où je voyais les ordinateurs comme le diable. Je ne servais aucunement des ordinateurs pour faire du dessin ou quoi que ce soit. Pour moi, c'était un outil très loin du dessin. Là, j'étais un puriste. Ça a duré longtemps. Là. J'avais appliqué pour aller en dessin animé. Il y a un programme de dessin animé à Ottawa. Il y en a un à Toronto aussi à cette époque-là. Puis j'avais pas été accepté. Première année que j'applique pour aller au collège, faire des études de postsecondaire, j'applique à une seule place parce que je me trouve tellement bon que je suis sûr que je vais être accepté. Puis je suis aucunement accepté, fait que cette année-là, j'étais allé travailler au McDonald's. Je suis même pas allé à la McDonald's University, là.
T'as raison, tu me disais, je suis allé au McDo parce qu'ils m'ont pas accepté au IW.
C'est ça.
C'est juste ça aussi, c'est un backup plan. T'es comme, hey, là.
Mais c'est ça, fait que là, j'ai... La deuxième année, je voulais encore aller en dessin animé, puis j'ai pas été accepté, mais j'avais appliqué ailleurs aussi, dont la conception graphique, qui était de faire des logos, de la mise en page, toutes sortes de trucs par rapport à se servir des outils technologiques pour faire du graphisme, du dessin, puis j'ai appris beaucoup, là, le Photoshop, Illustrator, tous ces trucs-là. Mais je voulais aller en dessin animé, fait qu'après une année en conception graphique, c'était un programme de 2 ans dans ce temps-là. Pendant mes vacances de Noël, j'avais fait un portfolio pour aller en dessin animé. Puis c'est la troisième fois que j'ai été accepté en dessin animé.
Wow.
Et j'ai trippé au bout là-bas. C'était un programme de 2 ans, ça aussi, dans ce temps-là, où ce qu'on faisait que dessiner, c'est quasiment 24 heures sur 24, le nombre de nuits blanches que j'ai faites à dessiner des petits bonhommes qui bougent là, à 24 dessins secondes. C'était assez intensif. C'était à cette période-là que je dessinais le mieux. Parce qu'on avait des cours d'anatomie, de perspective avec des projets de fou à faire.
OK.
Fait que j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai fini mon deck avec mention d'honneur, même si ça m'a pris 3 ans avant d'être accepté parce que je faisais des projets tout le temps exagérés. J'ai tendance à faire ça.
OK.
Par exemple, on a juste... quand j'étais en graphiste, il fallait faire des pictogrammes, tu sais, comme ce que tu vois sur la toilette, là, le petit bonhomme de fille, le petit bonhomme de gars, puis peu importe ce qu'on peut mettre maintenant, là. Mais il fallait que je fasse des pictogrammes. J'ai choisi de faire des sortes de singes. On avait 3 à faire, je pense que j'en ai fait 10. J'ai réussi au prof. En dessin animé, il fallait faire un projet de dessin animé. Je pense que c'était comme 15 secondes d'animation. Je me suis donné... pour faire 1 minute et demie d'animation que j'ai pas complété parce que c'était beaucoup trop là, pour une demi-session collégiale. Mais c'est ça, je me mets tout à des projets trop énormes. Des fois, c'est assez intense.
Faut viser, faut...
Ah ouais, faut essayer de se dépasser. C'est...
Ah oui, exact.
Mais c'est ça, fait que là, j'ai fini mes études en dessin animé puis je commence à travailler surtout en multimédia. J'ai fait ça pendant une couple... J'avais à ce moment-là soit allé à l'école de film de Vancouver parce que le cinéma m'intéressait beaucoup. Quand j'ai appris que Vancouver, c'était pas abordable, j'oublie ça. Puis je voulais aller à l'ENH en écriture, comme le côté écriture. Puis quand je me suis aperçu que l'ENH n'était pas abordable, j'ai dit j'oublie ça. Oh, dans ce temps-là, fait que j'ai continué à faire du dessin pendant un bout de temps.
Ah, t'es pas obligé d'y aller dans le sens où tu sais, si t'as le talent, là, t'as fait. Tu fais plein d'affaires de ta carrière, tu n'es pas obligé d'avoir cette formation-là et de dépenser cet argent-là pour le faire pareil. T'sais. Mais quand tu n'es pas dans le milieu, quand tu ne sais pas, tu penses que c'est le seul chemin, puis si tu ne vas pas là, ça ne fonctionnera jamais. Puis tu es comme, ben non, il y a plein de monde qui ne font pas ces écoles-là, puis sont juste talentueux. Puis, t'sais, toi, tu es un exemple aussi de
ça. Je suis quelqu'un très scolaire, par exemple. J'aime ça apprendre. J'aime ça avoir un prof qui me tape sur la tête et dit, c'est bon, tu as bien fait ça, là.
Ouais, mais tu sais, par exemple, le savoir est accessible quand même à plein d'endroits différents. Ouais. Fait que, tu sais, entre être scolaire puis être curieux puis passionné, tu peux aller tout chercher ce que tu as besoin de savoir. Je suis convaincu, tu sais.
Parce que par rapport aux études, j'ai pas fini là.
Ah non, OK.
Une grosse pause pendant longtemps parce que j'ai commencé ma carrière d'écrivain et tout à travers tout ça, mais je suis retourné faire un bac à 39 ans, je pense, ou à 39 ans. C'est une autre affaire que je voulais avoir des études universitaires, mais je me trouvais pas assez bon pour aller à l'université, parce que je pensais qu'à l'université, c'était juste des bolés qui allaient là, puis j'étais correct à l'école.
Ah, Chris, non.
Puis, ouais, non, c'est ça, je me suis aperçu. À un moment donné, en Outaouais, ici, on a un bac universitaire en bande dessinée. C'est un bac en art, mais qui est une concentration BD. C'est le seul en Amérique du Nord, ce que tu peux... avoir une concentration bande dessinée. Puis, il y a une année, je pense que c'est 2015, ouais, je pense que c'est 2015, le directeur du programme m'approche pour me demander si je veux faire partie du jury pour les projets de finissants. Fait qu'il y a comme je pense qu'il y a un enseignant et puis il y a 2 professionnels qui reçoivent les projets de finissants, leur projet synthèse, c'est des BD d'une 20aine de pages, puis qui jugent, puis qui donnent le commentaire constructif, puis qui en choisissent parmi les gagnants, mention, tout ça. Fait que j'ai fait partie du jury, puis après avoir fait partie du jury, je me suis dit, coudonc, je pense que je peux venir ici, moi. Là.
T'as fait tout à l'envers.
Ben, c'est ça. Après avoir fait partie du jury, je rentrais dans le programme l'année d'après. Puis je me suis fait reconnaître des cours, je me suis fait reconnaître 19 des 30 cours du programme. Ouais. Fait que j'ai fait le bac en 3 ans comme tout le monde parce que je faisais ça à coup de 2 cours par session. Puis j'ai trippé au bout là, à faire ce programme-là, puis je me suis donné d'aplomb. Là. Même affaire, Projet synthèse, 15 à 20 pages, t'es supposé faire, j'en ai fait 80.
Oh, lisse.
Ouais. Puis j'avais gagné le prix du jury. Puis mon livre a été publié l'année d'après dans une maison d'édition. Fait que c'est ça. C'était
très bien, ça.
Quelque chose. Fait que j'ai du fun. Puis le gros hic d'avoir fait le bac en bande dessinée, c'est qu'après avoir fait le bac, je connaissais plus les étapes. Fait que ça me prend plus de temps à faire mon travail parce que je connais mieux comment m'y prendre. Avant, j'improvisais. Mettons, le master, il faut que je passe par l'étape, le scénario, après ça, le découpage. Après ça, je fais le croquis. Après ça, je commence à faire la ligne un peu plus au propre. Je fais mon ancrage, je fais la couleur. Il y a beaucoup trop d'étapes maintenant. Avant, c'était genre, je le dessine, c'est fait.
Ouais, mais je pense que tu peux revenir à ça aussi. C'est un choix personnel.
Oh oui, c'est ça. C'est juste c'est que ça. Vu que je suis un peu perfectionniste dans mon niveau à moi, là, je prends beaucoup de temps à réfléchir à ce que je fais. Ce qui fait que mes projets n'avancent pas assez vite à mon goût, mais je suis satisfait par le temps que je le complète. Là.
Mais t'en fais des affaires. Là, comme je te dis, là, on a nommé les deux. C'est deux avec Billy. Hein? Il me semble que t'en as fait deux.
Oui, on vient de sortir le tome 2.
Non, c'est ça.
Je peux tirer mon bras pour te le montrer.
Allez, vas-y. Show me!
Le tome 2.
C'est très cool, ça. Bill, qui est un gars que j'adore aussi. C'est un ami là, depuis longtemps, Billy. Là. Fait que j'étais content de voir. Parce qu'on dirait que dans ma tête, c'est comme deux mondes. Je connais Bill de l'humour puis de tout ce qu'on a fait ensemble à travers les années. Puis toi, ben, je t'ai rencontré dans un autre contexte. Puis ouais. Là, j'étais comme, hey, c'est mes deux amis, ils se connaissent. J'étais comme, ouais, c'est cool.
Super sympathique. Je le connaissais pas du tout avant.
Il est fin, Bill. C'est une machine à punch. Là.
J'étais dans le cours de Luc Boilly. Je retourne au cours de l'écriture, là, le texte que je t'avais envoyé. Puis je reçois un texto d'un ami auteur qui travaillait comme directeur littéraire. Puis il disait, écoute, je sais pas si tu connais un tel. Il veut faire une BD basée sur des personnages qui font radio. Puis il cherche un illustrateur. T'aimerais-tu faire partie du bassin d'illustrateurs que je lui présente? Puis Luc, il venait juste de parler du fait que, tu sais, c'est pas tout la chance en humour, tout ça. Il faut que tu provoques des opportunités, tout ça. Puis je dis, ben oui, c'est vrai, tu provoques des opportunités. Fait que je suis allé sur son compte Facebook, sur sa de professionnel. Puis là, j'ai écrit à Billy, je dis, hey, écoute, blablabla, ça a l'air que tu vas faire un projet BD. On m'a mis comme dans ton bassin d'illustrateur. Moi, je voulais juste te dire que si moi, tu me choisis, je vendais ma salade, là. Moi, je suis pas juste c'est pas juste une commande, ça serait une collaboration. Je trippe sur l'humour, blablabla, tout ça. Puis, je sais pas si ça allait aider, mais il a fini par choisir mon portfolio. Puis, je suis bien content de ça. Là.
Ah, puis c'est un esti de bon gars, Bill, en plus, là. Tu sais, c'est quelqu'un avec qui, quand tu travailles avec, là, moi, je l'ai vu travailler, puis j'ai travaillé avec lui proche. Puis, je veux dire, t'as le goût de te donner. C'est un leader par l'exemple, de genre, être à son affaire, puis travailler, puis faire les choses au bon moment, puis mettre l'effort qu'il faut. Fait que, tu sais, des gars de même, tu veux travailler en équipe avec ça, là. C'est comme...
Non, super sympathique, puis il se prend pas pour quelqu'un d'autre non plus, là. Puis même pour ça, tu sais, il connaissait pas, c'était un fan de BD, mais il n'avait jamais fait. Donc, il m'a vraiment donné le beaucoup de liberté par rapport à même à ses scénarios. M'envoyer des scénarios, je les découpais, je disais, OK, ça, on n'a pas besoin de le dire parce qu'on le voit. Des fois, je disais, hey, tel joke ici, qu'est-ce que t'en penses? Là, j'y rajoutais des punchs ou qu'il pourrait rajouter à travers tout ça. Puis je pense que le trois quarts des gags que je lui proposais, il dit, c'est bon, laisse ça dedans, on le met dans BD, puis ça fonctionne. Tu sais,
c'est vraiment deux... Le visuel, je veux dire, c'est vraiment ta spécialité. Fait que c'est super le fun d'avoir un œil comme le tien sur des trucs comme ça. Parce que moi, tu sais, c'est le même principe qu'un œil de réalisateur, je trouve.
Ouais, moi, c'est souvent, un peu mettons, ça qu'on fait, ouais.
Ben c'est ça, j'écris des sketchs. Pour moi, là, la BD, c'est un storyboard, mais que ça va être ça, c'est ça le produit fini.
On est porté à faire un peu tous les rôles qu'on ferait au cinéma, même le côté acting, le nombre de simagrées que je fais quand je fais mes personnages, là, si une émotion quelconque, j'essaie d'avoir cette émotion-là. si j'avais un miroir en avant de moi pendant que je... Ben, des fois, on a des miroirs devant nous pour essayer de reproduire l'expression, mais quand je dessine tout seul, si je suis en public puis je suis en train de dessiner certaines émotions, ma face va avoir cette émotion-là ouais. pour essayer de la représenter sur le dessin. Même si je me vois pas, là, c'est un réflexe professionnel, j'imagine.
Pareil quand je prends des notes puis quand j'écris des affaires, tu sais, puis j'ai l'air fou là, sur le trottoir des fois. Ma voisine, elle me voit tout le temps, puis je suis tout le temps en train de me parler à moi-même puis de bouger les bras, puis le petit de ma blonde rit de moi parce qu'il me voit des fois juste me parler puis faire des moves, puis ma blonde sait pas de quoi je parle, elle sait pas pourquoi je parle, moi, c'est juste ma tête qui part, puis le petit me regarde, puis là, il m'imite, puis il essaie de... là, tout le monde rit de moi, puis je suis comme, OK, elle est chier, là, t'as 3 ans et demi, puis tu m'intimides, là, mais je comprends. Mais c'est sauf que c'est ça, une BD, c'est essentiellement, dans un processus de film ou de série, ce serait le storyboard, là, tu sais.
Ouais, exactement.
Ben oui. Fait que c'est cool d'avoir cette espèce de vision-là. De ça, on le voit, on n'est pas obligé de le dire. Tu sais. Mm-hmm. C'est la beauté de changer de médium, je trouve, en création. Tu sais, moi aussi, comme tu sais, on se connaît, ben, je touche à plein de médiums différents. Là. La BD, c'en est un que j'ai jamais fait. Sauf que tout ce qui est visuel, des fois, c'est juste sonore. Tu sais, quand c'est de la radio ou des pubs audio ou des trucs avec de l'imagerie sonore, c'est de voir l'écriture, elle s'adapte à quel contexte, puis qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on rajoute. Qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui ne l'est pas en fonction de dans quel médium c'est diffusé. C'est le fun, comme je trouve, comme espèce de flexibilité là, dans la création. Puis c'est ça. Moi, je trouve ça vraiment cool parce que tu sais, ton livre, évidemment, je l'ai lu. Là. Puis là, tu donnes des ateliers aussi. Tu me disais, là, tu donnes des cours, des formations. J'étais comme, ouais, c'est intéressant ça.
C'est un truc que, encore une fois, je n'aurais pas fait par choix. Quand j'ai sorti mon premier livre, 2007, j'ai sorti mon premier livre. Moi, c'est. J'étais un peu. J'ai peur de tout, mais je suis prêt à tout pour le bien du produit, le bien de faire avancer. Et je savais que c'était une petite maison d'édition. Pour faire connaître mon livre, il fallait que j'aille voir mon public, il fallait que j'aille le présenter aux jeunes, tout ça. Fait que c'est au début, je savais qu'il allait falloir que j'aille faire des lectures devant des kids. Puis, pour dire à quel point j'étais stressé la première fois, on m'a dit « OK, ça va durer 45 minutes, une heure, ton atelier ». Je m'étais préparé des cartons, tu sais, les petites fiches là, quand on faisait des présentations à l'école, des petits cartons comme ça, où j'avais écrit mot pour mot ce que j'allais dire. Je m'étais filmé pour avoir un bon 45 minutes. Puis une fois que j'étais prêt, c'est beau, j'ai 45 minutes, mais mes fiches, je les apportais avec moi là, pendant que je faisais mes présentations. Et je les lisais mot pour mot. Puis je pense que je l'ai fait en 20 minutes la première fois que je l'ai présenté.
Tu as fait un bordel.
Ah ouais, c'est ça.
T'as fait un bordel.
Puis des gros cercles de transpiration, les jeunes, ça les impressionne bien gros, hein, le monsieur qui coule des dessous de bras. C'était horrible les premières fois, mais plus j'ai fait des ateliers, plus je suis venu à connaître mes histoires, à connaître ma profession, fait que pas que j'étais moins préparé, je suis tout le temps trop préparé, je me fais tout le temps... 3 heures de contenu pour des ateliers de 45 minutes, puis je finis par en faire la moitié de ce que même pas la moitié, parce que je passe sur des chires à gauche puis à droite, je fais rire les jeunes, je raconte de quoi. Puis maintenant, c'est comme des mots-clés qui vont me permettre de faire des ateliers. Puis j'essaie de pas toujours répéter la même chose, parce que des fois, tu vas faire 3-4 présentations, puis c'est comme refaire la même heure dans la journée.
C'est comme une conférence, genre.
Je ne traite pas tant que ça, tout le temps me répéter, parce qu'à un moment donné, je tombe dans la lune, puis je suis sur mode automatique, là. Fait que ça, j'aime moins ça, là.
Mais, te demandes si tu viens de le dire, ouais. Ou si tu l'as-tu déjà dit, ou tu l'as dit, c'était dans celui d'avant. Fait que là, si je le dis là, je me répète-tu d'il y a 10 secondes, ou d'il y a une heure et demie, tu sais.
Ouais. Fait que je me prépare des PowerPoint, du visuel, tout ça, comme ça je peux avancer, je vais de l'avant avec ça. Puis c'est... Mais des fois, il y a des écoles qui aiment ça me recevoir, fait qu'ils me reçoivent les années suivantes. Puis je me souviens plus si j'ai déjà vu ces jeunes-là. Je représente la même chose des fois, deux fois au même monde. Fait que là, j'en suis rendu à un point où j'ai limité le nombre d'ateliers que je fais parce que c'est en train de prendre le dessus sur mon travail. Ouais. Parce que j'en faisais plus que j'avais le temps pour faire des livres ou faire mon travail que je préfère faire, dans le fond. Là. Mm-hmm. Fait que là, je donne à peu près 5 jours d'animation scolaire par mois. Ça me suffit pleinement. Ouais.
C'est en masse. Puis là, c'est quoi tes projets en ce moment, justement? Là? C'est quoi tu travailles? Là?
C'est quoi je travaille? Là, je viens de finir d'écrire un roman je sais jamais comment trop les dire. Mettons un roman de peur. Hein, c'est pas de l'horreur parce que ça s'adresse à des 9 à 12 ans.
OK.
Je viens d'en écrire un que j'ai publié qui sort là, la semaine prochaine.
C'est quoi le nom?
Ça s'appelle Le Traversier.
OK.
Puis c'est une affaire de monstres qui se retrouvent sur. C'est des gens qui embarquent sur un traversier entre deux rives. Mais ce traversier-là est supposé être fermé depuis des années, mais là, il est ouvert ce soir-là pendant un soir de brume. Mais l'affaire à travers tout le livre, c'est qu'il n'est pas vraiment ouvert. T'sais, ils sont comme entre deux mondes. Puis la traversée entre ces deux rives-là, c'est quasiment la mort assurée. Sauf que vu que c'est pour des enfants, mais des jeunes, je tue pas tout le monde, juste le trois quarts du monde.
Okay.
Puis j'essaie de pas être trop graphique dans les morts.
Ça en prend un vivant pour que le jeune s'identifie.
C'est ça. Même il y en a trois qui vont survivre de cette affaire-là, dont une qui est pas mal amochée. C'est ça, ce genre d'histoire-là. J'en ai écrit un autre aussi, que je, là, c'est en. Il est allé. Le premier jet a été écrit. C'est à l'étape de la révision. Donc, il y a des trucs qui vont changer, tout ça, à travers tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'étapes, de réécriture, tout ça. Puis, je suis pas parfait, là. J'étais un étudiant correct en français au secondaire, mais c'est tout rapport à l'imagination, puisque j'écris.
Ouais.
Je suis pas un top en français. Plus j'écris, plus je suis bon, mettons, là. Mais
il
y a beaucoup de travail à faire, là. Puis, autant dans la révision, la réécriture, la correction, tout ça, il y en a tout le temps plein. Puis même aujourd'hui, j'en trouve dans des astérix, j'ai trouvé des coquilles encore, là. Fait qu'il y a personne qui est à l'absolution d'erreur, là. Fait que ça, c'est, je travaille sur un roman comme ça. Je travaille sur des petits romans jeunesse pour les plus jeunes. Première lecture, je fais beaucoup d'illustrations là-dedans. Un kid qui trippe sur des boîtes. On a tous trippé sur des boîtes comme des chats. Là. Ça, je travaille là-dessus en ce moment. Je suis en train de scénariser une bande dessinée de zombies qui est comme une suite à des romans de zombies que j'ai écrits. Fait que là, je suis dans la scénarisation de ça. Je fais de la BD pour un magazine Les Explorateurs. Fait que ça, j'en fais, c'est deux pages à chaque mois que je fais pour ça. Fait que je suis en train de scénariser ça. Là, j'ai fait les scénarios. Je suis en train de faire le découpage pour trois numéros qui se trouvent être genre février, mars, avril.
OK.
Puis, il y a d'autres affaires aussi. Mais tu sais, c'est comme tu peux voir, toujours plein de projets. Puis j'en ai comme huit autres qui sont juste,
autour,
à gauche,
là,
à droite.
Ouais.
Puis à travers ça, j'essaie de trouver du temps pour écrire un peu d'humour aussi. Là,
Ah, ben, c'est malade. Ben là, ça roule, là, c'est fucking cool. Puis qu'est-ce que les gens peuvent acheter? Parce que, est-ce que tu fais juste du jeunesse? Parce que, tu sais, Billy, c'est pas du jeunesse,
beaucoup de jeunesse. J'ai de la BD pour les ados aussi. Là. J'ai une coupe roman graphique pour les ados. Les idiots que je t'avais offert aussi.
Ouais.
Ça aussi, c'est pour plus pour les ados, même si le dessin fait très enfantin. J'ai toujours un style enfantin, mais je vais faire beaucoup de BD pour les ados. Donc, dans la bande dessinée, ce que j'ai fait, surtout pour les ados à date, je ne suis pas encore à écrire des romans pour les ados. Je t'avais d'en écrire. Il y en a un, je commence à me préparer. J'ai les idées de base, là. Ça va être une affaire de voyage dans le temps parce que je trippe sur
les concepts de voyage dans le temps.
J'essaie de trouver quelque chose qui va être assez original. Je pense qu'il y a un sniper dans mon front en ce moment.
Ouais, c'est ça, il y a une petite lumière.
Je vais m'avoir le feu dans les yeux tout à l'heure. Mais,
j'adore ça, moi aussi. Tout ce qui est voyage dans le temps, toutes ces théories-là de genre le paradoxe du grand-père, puis toutes ces patentes-là.
Des fois, c'est tiré par les cheveux, là, mais je trouve ça amusant, je trouve ça le fun.
Ben, Interstellar, c'est dans mes plus intéressantes théories du voyage dans le temps. Je considère que c'est un film sur le voyage dans le temps, là, d'une certaine façon.
Oui, mais l'affaire du temps relatif, là,
le tesseract, tout ça. Oui, pour moi, c'est une façon de montrer le voyage dans le temps façon complètement nouvelle puis intéressante.
Je travaille sur un projet comme ça, puis ce projet-là, je vais l'écrire sous un pseudonyme parce que je prépare un personnage de moi qui va écrire des livres éventuellement. Puis en principe, mon premier roman de peur. C'était supposé être mon alter ego qui l'écrit. Okay. Mais quand mon éditeur, j'y ai dit à la fin, puis disant, mais non, mais nous, on voulait pas ça. On veut que ce soit toi. C'est toi qu'on veut promouvoir. C'est pas un doute qu'on connaît pas. Là.
Ouais.
J'ai dit, ah, c'est plate. Je voulais écrire mes romans comme d'horreur avec ce gars-là. Mais OK, c'est beau. Mais j'ai finalement réussi à faire un compromis. Au début de ce roman-là, il y a une citation de personne là, qui est justement, c'est mon alter ego. C'est comme une affaire quasiment à la Nostradamus. Là, puis c'est une affaire qui parle de temps aussi. Là. Je pense que c'est. Je sais pas si. Je vais aller le chercher. Je vais te dire ouais. La citation. J'y arrive, là. C'est ça, c'est mon roman d'horreur. Donc,
je l'ai vu, ce visuel-là.
Fait que la citation, c'est « On a tous déjà souhaité arrêter le temps, mais il faut admettre que tôt ou tard, ça deviendrait interminable. »
Ah, j'aime ça.
Ça veut rien dire, mais en même temps, c'est philosophique. Ça parle de temps, puis tu sais...
Ça veut tout dire et rien dire en même temps.
Vu que lui, il va écrire un roman qui parle de voyage dans le temps, mais ça va aller. Ça va tous mes romans, maintenant, vont avoir des citations de ce dude-là, mais c'est des citations à venir.
Ouais, ça, j'allais dire. Encore. Ouais, c'est comme s'il était allé dans le passé pour les placer dans les livres. C'est hein, drôle,
lui-même.
Ça. J'aime fait ça. Que... OK, fait que tout est mélangé dans tout. J'adore ça, pour vrai.
Ouais, moi, je, puis... c'est ça. C'est assez intense, des fois, dans la tête de quelqu'un qui essaie d'imaginer toutes sortes de trucs. C'est soit... Ça se rapproche de la maladie mentale, là, mais...
Ouais. Ouais, mais vois-tu, moi, je dis ça. Je me dis tout le temps, on a monétisé notre maladie mentale. Au lieu de la traiter, on a réussi à faire comme... Attends, là. Je pourrais gagner ma vie avec ça.
Ben, c'est le nombre de concepts qui ont pas de sens auxquels j'ai pensé. Je me dis, si je faisais pas un métier créatif, qu'est-ce que je ferais avec toute cette énergie-là? Je serais schizophrène quelque part, probablement, là, avec tous mes personnages.
Tu serais un comptable weird en tabarnak. Là.
Ah, ça, c'est clair. Là. Oh, c'est ça,
si tu n'avais pas de outlet pour ce qui se passe dans ta tête, là, tu serais juste comme... Ouais, je l'aime, mon comptable, mais il est weird un peu. Ça prend ces places-là pour juste comme déverser ces affaires-là. Puis là, si les gens veulent, j'allais dire consommer tes trucs, mais les acheter, puis vers quoi tu les dirigerais? Parce que là, évidemment, t'as comme full d'affaires. Fait que je veux te laisser dire, hey, ça, ce serait cool que tu achètes ça, ce serait cool que tu lises ça. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais plugger en fin d'épisode?
Ben, si tu as tes Patreons qui ont des ou tes auditeurs qui ont des enfants, j'ai plein de livres pour la jeunesse dans lesquels je mixe beaucoup humour et aventure. Là. Okay. Donc, j'ai vraiment jeunesse que j'ai bien aimé écrire, c'est Ma vie de zombie. C'est un zombie, un jeune qui est mort tragiquement avec sa famille. Mais heureusement, dans son village, ils deviennent vivants, eux autres, c'est sous le cimetière. Puis ils mangent pas de cerveau parce qu'encore une fois, ça s'adresse aux jeunes. Ils ont substitué le cerveau avec du tofu. Je trouvais que ça faisait, tu sais, au lieu de la matière grise, c'est la matière blanche, là, un peu gélatineuse. Donc ça, c'est. Je m'amuse bien gros avec cette série-là. Livre pour
c'est
les jeunes.
Âge? C'est quel
ça,
âge?
Ça, c'est 9, 12. Ben, c'est plus 8. 8-12 ans, mettons, pour okay. Cette série-là. Puis je travaille sur une BD là-dessus, fait que ça, c'est pas mal cool. Le Traversier, mon tout premier roman qui fait peur, ça, c'est pour la même chose. C'est 9-12 ans, là, mais ça s'adresse à un public assez élargi, là, je te dirais. Si t'aimes les sensations fortes, mais pas trop fortes. Là.
Ouais.
Ma série de BD avec Billy Tellier, ça c'est toujours disponible hein, partout en librairie. Un livre que j'ai écrit récemment, Abracadabra, hein, pour les. Ouais. On parlait tantôt, j'ai toujours un quota de blagues de merde. J'ai toujours voulu faire une histoire qui parlait de merde aussi dans un livre, puis je l'ai faite. Ça, c'était inspiré du fait que mes enfants flushaient pas quand ils allaient aux toilettes, puis c'était jamais eux autres les responsables de ces crottes-là. Ouais. À un moment donné, je me disais, ça vient pas de nulle part, ça peut pas être un caca magique. Fait que là, j'en ai écrit un livre, puis là, je dis ça partout ce que je me promène, je dis que mes enfants flushent pas leur caca. À la fin de cette histoire-là. Fait que ça s'appelle l'Abracadabra concept. Puis, il y a une version audio de ce livre-là qui était... Puis
c'est PY, hein, je pense.
Ouais, PY qui a fait la version audio. Fait ça, j'étais super content parce que mes jeunes trippent sur PY. Fait que ça n'a pas vraiment aidé la cause. Ils se sont dit, si on ne flush pas, ça se peut qu'un jour, tu écris une histoire qui va être narrée par une de nos vedettes. Fait que
Ça pas fait que là, il n'y a plus personne qui flush à la maison. C'est juste désagréable.
Moi non plus. Non, c'est...
c'est ça, toi aussi, t'es comme, j'ai besoin d'une suite, ça me prend de l'inspiration.
Exactement. Donc, c'est ça. Là. Sinon, tu tapes Éric Pelado sur... sur les internets, puis tu vas trouver plein de livres que j'ai écrits. Il y en a que tu peux acheter directement de moi sur mon magasin en ligne. Puis si tu l'achètes directement sur mon magasin en ligne, je les dédicace. Oh. Fait que, ouais, tu peux le rejoindre. Peut-être que je peux te donner le lien tout à l'heure. Oui. Là, pour
Tu me mettre en dessous de l'épisode, ouais.
Ouais, sinon, c'est ericpelado.net, c'est ma page Internet, puis je suis disponible sur Instagram aussi. Là. J'ai ma page Instagram.
That's it. Merci beaucoup, ouais. Man.
Ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir invité, PY.
T'as-tu dit PY?
PY, PB, Caliboire.
Aïe, aïe. Non, mais ça, c'était... tout ce temps-là, tu pensais que j'étais... Moi, je pensais qu'on avait de quoi.
Ouais,
qu'on se connaissait, qu'on s'aimait bien.
Je suis vraiment... C'est parce qu'on vient de parler de lui. Je suis vraiment désolé. Ça m'arrive. Je suis tombé dans la lune deux secondes. Puis là, PB, PY, tu sais, c'est proche, là.
Non. Fuck tout! Non.
Je viens d'être barré à vie, là.
Ouais, t'es barré à vie. T'es bloqué du podcast. Tu rentreras plus dans les bars que je fais. C'est fini!
Puis,
ça faisait longtemps que je voulais qu'on se jase on-screen.
Cool.
Puis qu'on prenne la tête, on se croise dans les places. Puis c'est vraiment, je trouve ça vraiment le fun de voir tout ce que tu fais puis de te regarder aller des fois de loin et des fois de proche, comme tu sais, quand j'achète tes affaires. Tu sais. Des fois, je vois juste, parce que tu fais beaucoup d'affaires, mais des fois, je vois des trucs passer puis je fais « Ah! » Puis là, j'ai comme pas le temps. Puis... Fait que je sais que t'as fait de quoi, mais c'est flou dans ma tête. Là, tu sais.
J'essaie d'être actif comme que je le peux, mais c'est comme que c'est. Hein.
C'est jamais assez.
On veut pas trop mettre de temps là-dessus parce que ça peut devenir exigeant là, d'être toujours présent sur les réseaux sociaux, mais il faut rester un peu actif et j'essaie des fois de mettre des trucs. Surtout de la promotion, là, puis c'est ça. Là, mais
on n'a pas le choix. C'est parti de la game. Ben, tu fais bien ça. Ok, continue. Allez acheter les trucs d'Éric. Allez lire si vous avez des jeunes. Allez acheter ces trucs-là. Cacadabra, c'est quand même...
Exactement.
C'est le fun à dire, pour vrai.
C'est super le fun. Puis la façon que PY le dit, c'est le fun. Puis PB vient de le dire aussi, fait que...
Faudrait que tu te fasses, dans le fond, faudrait que tu contactes plein de monde, puis tu leur demandes de dire Abra, Cacadabra. Puis là, tu fais un montage super serré, là, de genre plein de monde qui disent ça. Ta promo remplie de vedettes pour ton prochain livre, ça serait malade.
Exactement. Je prépare un autre livre sur le vomi. Tu sais.
Ouais,
faudrait une suite.
Pour le cégep. Oui, c'est une suite. Accrocher tes 8-12 ans avec le caca. Puis là, tu t'en vas vers. T'es repogne au cégep avec le vomi.
Pour ceux qui ne savent pas boire, là, tu sais, c'est là, les éduquer sur où vomir exactement, puis comment se nettoyer, comment se gérer. Hein?
Ouais, là, t'attends 60 ans, puis t'es repogne avec le caca, mais comme une résidence. Tout est dans tout.
C'est le même personnage, mais rendu à 85 ans.
Exactement, tu pognes tous les marchés. Puis à Noël, tout le monde peut parler du même livre. Ils ont tous celui associé à leur époque.
C'est parfait. Je prends ça en note, PB.
Hein? On a quelque chose. On a un projet. On a un autre projet qu'on a pas le droit de faire.
C'est parfait.
Ben, merci beaucoup. Prends soin de toi. Puis,
toi aussi.
Allez voir ce qu'il fait. Je t'adore.
On se revoit bientôt.
Ben oui, c'est sûr. À toi aussi. Ciao.